France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue à tous dans les midis de culture à 13h. Nous serons en compagnie de Philippe Grandrieux pour la sortie de son livre Film Nox, paru chez Maitré Éditions. Mais ici, c'est la critique qui ouvre la danse. Deux premiers romans sur notre carnet aujourd'hui. Dramadol de Rose Vidal. Alors, peut-être que vous avez déjà le jeu de mots en tête, on y reviendra. Qui vient, lui, de paraître dans la nouvelle collection Aventure des éditions Gallimard. Livre à tiroir qui fourmille d'inventions formelles et d'idées neuves. Et je suis fan de l'autrice et réalisatrice britannique Shina Patel, traduit par Marie Darieux Sec, qui s'interroge avec humour et cruauté sur ce qu'implique être amoureux de quelqu'un qui est indisponible et obsédé par sa rivale. Autour de la piste du studio de France Culture aujourd'hui, Virginie Bloch-Lenné, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique littéraire et Johan Ferber, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes éditeur, essayiste et critique littéraire, bienvenue à tous les deux.
Emmanuel, je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup avant de découvrir que je l'aimerais encore plus. Je l'ai aimé encore plus lorsqu'elle m'a confié son truc. Ce que j'aime appeler notre lot à chacune. Le loto, la loterie, le truc. C'est ce qu'on se trimballe au jour le jour. Jour avec, jour sans. Mais c'est toujours là et c'est pour chacune, chacune pour soi. Je l'ai aimé dans la dette qu'elle m'a donnée. Je crois qu'on peut donner des dettes et même que certaines sont des cadeaux au moment où elle m'a confié son histoire. Et, est-ce qu'il y a don sans contre-don, cette histoire, elle me la donnait quand moi je lui parlais de mon travail sur les antidouleurs. C'est nul comme don pourtant, de dire un secret qui n'en est pas un, confier quelque chose qui ne demande pas de confiance, juste un peu d'intérêt. Il n'y a pas de douleur à dire « ça c'est mon travail, mon occupation, mon questionnement ». C'est pour ça que l'échange est démesuré, qu'il m'a marqué tout à fait et qu'il a décuplé l'affection que j'avais pour Emmanuel.
C'est le tout début du livre qu'on vient d'entendre, lu ici par Oriane Delacroix. Alors bien sûr, il y a une histoire de la douleur et des antidouleurs, puis très vite, le champ littéraire s'élargit à toutes les addictions contemporaines, qu'il s'agisse de notre rapport aux médicaments ou à nos façons d'aimer. Mais Rose Vidal propose surtout des contours nouveaux. Il y a dans ses pages des inventions formelles et des idées qui fusent. Un premier avis rapide, Johan, qu'avez-vous pensé de Dramadol ?
Ben moi, je le dis sans détour, pour moi, ça constitue un texte extrêmement important parce que Dramadol, s'il travaille sur la maladie, les douleurs et l'antidouleur, pour moi, il est vraiment le symptôme d'une époque. C'est un livre extrêmement contemporain et son sous-titre nous renseigne vraiment sur le projet de son autrice, à savoir un roman sans histoire. Et je crois que le récit qui est proposé, c'est le récit d'une pensée. Et pour moi, il se situe sur vraiment une échelle de textes très fort comme ceux de Maggie Nelson, Blandine Rinkel ou encore plus récemment Le Vivarium de Tanguy Viel. C'est vraiment pour moi un texte vraiment singulier.
Virginie, même exercice, est-ce que Dramadol vous a surprise ?
Oui, ça m'a beaucoup plu aussi, très singulier aussi, inventif, ludique, qui se bonifie en avançant parce qu'elle creuse les lignes qu'elle trace. Donc au début j'étais un peu agacée, mais il se bonifie. Elle est très jeune, elle a 27 ans, Rose Vidal, et s'il est sous-titré roman sans histoire, en fait c'est un récit avec beaucoup d'histoires. Mais elle raconte les histoires au fur et à mesure qu'elle tombe. Donc c'est oui, très singulier et assez admirable.
Alors, une fois n'est pas coutume, mais j'aimerais, pour ce premier débat, que l'on commence par la forme. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce roman-là, Johan. Alors, il use parfois de l'écriture inclusive. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon terme à employer pour ce qu'elle crée dans ce roman-là. C'est la première fois que Gallimard s'autorise cette écriture un peu particulière. Vous allez nous la décrire. Elle se permet aussi de reproduire des SMS, des dessins. En tout cas, il y a une recherche formelle qui n'est pas qu'illustrative, mais qui fait vraiment partie de ce roman. Johan, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, je pense qu'effectivement, vous en avez décrit quelques aspects. Cette recherche formelle, elle est absolument pas vaine parce que d'emblée, elle se pose autour de la question de qu'est-ce qu'une histoire ? Qu'est-ce que raconter ? Est-ce que raconter une histoire suffit ? Ou est-ce qu'au contraire, l'histoire doit être sondée non pas sous un aspect narratif, ce qui est le plus communément celui qu'on attend d'une histoire, mais est-ce que l'histoire ne sert pas à déplier, à expliquer et à critiquer ? Et à partir de ce moment-là, histoire, roman sans histoire, devient un terme fantastique, qui laisse la place non pas en fait à une succession de drames, à une succession en fait de personnages, mais plutôt à une succession de pensées. Ce qui est très réussi dans ce livre et qui autorise à ces jeux formels qui sont tout sauf des jeux, mais des interrogations sur la forme, c'est le fait que le texte se présente en fait comme un drame de la pensée, c'est-à-dire qu'on assiste ici à la naissance d'une pensée qui se cherche, qui débute à Rome avec l'histoire donc qu'on vient d'entendre dans l'incipit lu par Oriane de la Croix.
Et parce que Rose Vidal était pensionnaire à la Villa Médicis.
Elle était pensionnaire à la Villa Médicis.
En tant que plasticienne d'ailleurs.
En tant que plasticienne, et c'est précisément cet aspect plastique qui est interrogé dans un espace, je dirais, extrêmement contemporain. Je parlais tout à l'heure de Maggie Nelson. Moi, il m'a semblé que c'était elle qui était le sujet d'une expérimentation où elle devient, je trouve, ce que Maggie Nelson appelle une autothéorie. Et je pense que Rose Vidal se place vraiment dans cet aspect-là des choses, à savoir qu'elle devient elle-même l'enjeu d'une expérience, d'une expérimentation où elle teste son rapport à l'écriture, où elle teste la résistance aussi des lectrices et des lecteurs aux objets qu'elle propose, en testant une nouvelle police, puisqu'il y a ici une police inclusive, non genrée, qui est extrêmement étonnante et qui produit effectivement un certain nombre, je dirais, de trouvailles plastiques au sein de la page qui n'appartiennent pas au calligramme, qui n'appartiennent pas au jeu et qui fournit, je dirais, une somme d'interrogations dont le récit Dramadol produit le drame de la pensée. C'est tout à fait admirable.
Interrogation parce que cette police un peu particulière, qu'on va appeler inclusive pour résumer, elle n'est pas là tout le temps, elle apparaît parfois.
Oui, elle apparaît parfois, justement, dans des moments précisément de tension, dans des moments où, en fait, le récit se fait enquête sur la douleur. Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une enquête sur la douleur, sur les antidouleurs, elle avait intégré la Villa Médicis, justement, pour une réflexion sur, finalement, l'usage pharmaceutique des antidouleurs lié à ce qu'on peut appeler le narco-capitalisme, pour reprendre une expression de Laurent de Sutter. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est que, précisément, cette enquête sur la douleur devient un moment, je dirais, d'intensité, de fictionnalisation, où précisément l'histoire, est-ce que la douleur s'incarne? Est-ce que la douleur est un risque? Bref, est-ce que la douleur est une question qui ne va pas s'en perdre, justement, celle ou celui qui l'interroge?
Alors Virginie, justement, sur ces histoires que recèle ce livre-là, quelle est la thématique de ce livre-là? On parle de douleur, d'antidouleur, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont écrites dans ces pages-là. Et d'ailleurs, les chapitres se suivent, mais ne se filent pas forcément.
La thématique, ça peut être la douleur, mais c'est la douleur, c'est aussi le chagrin d'amour. Elle va raconter un chagrin d'amour, elle va parler de l'amour, de ce que ça fait, mais c'est aussi la fatigue. Elle rapporte ça à sa génération, et là je trouve que c'est un thème très contemporain et qui nous concerne tous. Il y avait un livre, il date maintenant, le livre d'Alain Ehrenberg sur la fatigue d'être soi, mais elle parle de la fatigue que elle ressent vis-à-vis des boomers. Elle peut être agacée par l'agacement des boomers vis-à-vis des trentenaires. Elle parle de la fatigue amoureuse. Elle dit, quand on se marie, quand on choisit quelqu'un, on a toute sa vie pensé que ce serait l'homme de sa vie. Puis finalement, on l'aime bien, mais c'est lui. Bon, oui, ça se passe bien, mais voilà. Donc, elle parle de cette déception qui anesthésie un peu tout le monde, en même temps que on est entouré par le chaos, encore plus voilà, maintenant. Donc, c'est peut-être plus la fatigue que la douleur, la fatigue de cet ami Emmanuel dont elle raconte l'histoire. Emmanuel avait des jumeaux, elle a perdu un enfant à la naissance et il y a c'est une apathie généralisée, fatigue masculine, fatigue féminine.
Est-ce qu'on la suit dans ces dérives de pensée? Parce qu'en effet, un chapitre peut ne pas suivre le suivant. Est-ce que vous avez eu une fluidité quand même dans la lecture ou est-ce qu'elle boucle quelque chose?
Alors, elle avance en boucle, en spirale. Parfois, elle amorce des sujets qui n'aboutissent pas et j'étais un peu ralentie. Mais je trouve que plus on avance, plus elle suit sa pensée, plus elle devient profonde, plus elle parle d'elle aussi, il y a des allers-retours constants entre ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, et elle-même. Et on arrive à elle, à sa douleur, à son âge. Je trouve que c'est aussi un texte sur ce que c'est que d'avoir, elle a 27 ans, mais aussi 20 ans. Il y a un passage très bien, assez long, où elle raconte ce qu'elle a vécu quand elle était en classe prépa. On comprend qu'elle était en classe prépa à Henri IV, à côté du Panthéon. Et c'était la fin de son adolescence, la fin de ses rêves d'intégrer l'école normale supérieure. Elle a raté la fin. enfin, elle avait envie que tout explose, que le Panthéon explose. C'est cet âge difficile où on est à la fois autonome et pas complètement. Donc, elle le décrit très bien. Donc, c'est un texte très difficile à résumer. Elle se situe dans, elle dit, je fais comme Montaigne. Donc, elle va à Sceaux et à Gambade, elle reprend Montaigne, c'est une mosaïque, c'est aussi les épreuves, c'est-à-dire on reprend, on retravaille ce qu'on a pris. Ça peut être, c'est devenu un peu banal, Johan, vous citiez Maggie Nelson, de se situer dans la filiation de Montaigne et d'écrire un texte qui est une déambulation. Ça peut être plus ou moins bien fait, et elle le fait très bien. Ce n'est pas gratuit, et cet héritage, elle l'avance sans prétention, et on comprend ce qu'elle veut dire, puisqu'elle elle retravaille ce qu'elle a travaillé quelques pages auparavant.
Johan, quelques mots sur le style de Rose Vidal. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Quelle est sa phrase?
Sa phrase, je dirais que c'est une phrase critique. Elle met le roman dans un état critique. Hein, c'est le sous-titre programmatique qu'elle donne. Et surtout, c'est une phrase dont on peine à donner les qualités parce qu'en fait, elle est dans, non pas dans l'informe, mais dans la forme, en un seul mot. À savoir, elle dit qu'elle est travaillée par deux choses. Elle dit qu'elle est travaillée par le démon de l'abstraction. Et elle pose son écriture comme une curée inversée, c'est-à-dire un moment d'abstraction totale, et c'est effectivement le cas puisque on ne peut pas résumer le livre, et puis un moment un désir d'incarnation dans des histoires. Virginie résumait à l'instant, évoquait le passage effectivement du Panthéon, et il y a cette tension qui fait de l'écriture, je dirais, une vrille, une treille permanente, et on évoquait Montaigne, et effectivement Montaigne est revendiqué, mais sans être véritablement revendiqué, de manière extrêmement modeste. Parce que là, quand on présente le projet, on a l'impression de présenter un objet extrêmement théorique, extrêmement pesant.
De cagneuse. Voilà. Mais non, voilà. Non.
Et
non.
Absolument ouais. Pas. C'est vraiment un livre qui a, je dirais, une très grande simplicité. Il est extrêmement simple et facile à lire. Et c'est un objet formellement non identifié qui est vraiment, je crois, quelque chose de très important dans la manière dont précisément il déshéroïse, en fait, la posture de l'autrice. L'autrice ne s'installe pas en une espèce d'héroïne qui s'affronterait au roman, s'affronterait au récit, s'affronterait à l'histoire. Justement, la posture va, je dirais, vers une modestie d'énonciation qui en fait véritablement toute sa force et qui accepte aussi de rater. Il y a aussi quelque chose sur la douleur, l'antidouleur, mais il y a aussi quelque chose qui se trame autour de l'échec et qui le rattache à toute cette généalogie qu'on connaît parfaitement de la littérature du XXe siècle, de Beckett, précisément, de Molloy et de tout ce qui tourne à l'informe.
Vous évoquiez l'accessibilité de ce livre, qui l'est tout à fait, je crois, mais par exemple, elle s'adresse parfois directement au lecteur. Il y a du « tu » dans ses phrases.
Moi, je me suis demandé si elle s'adressait au lecteur ou à elle-même, parce que, et elle joue là-dessus, mais là encore, elle ne joue pas de façon...
artificielle.
Oui, de façon artificielle, mais ça arrive à la fin, et je me suis demandé si elle s'adressait pas à elle-même, parce qu'il est question à la fin. Vraiment, il y a des histoires concrètes dans ce livre. De la possibilité ou pas pour elle dans le futur de trouver d'inventer des personnages, et elle raconte une séance chez un psy alors qu'elle avait un chagrin d'amour, et elle a dit à ce psy, je parlais d'un homme que j'avais aimé et j'ai dit que c'était un sacré personnage, et mon psy m'a dit, vous rencontrez en amour des personnages, et elle ajoute, et vous raconterez des personnages. Donc ce vous, c'est sans doute elle, ce qu'elle fera dans le futur, et voilà, est-ce qu'elle arrivera à une forme romanesque ou est-ce qu'elle restera dans cette forme qui est très pratiquée en ce moment du récit déambulatoire, digressif.
Alors Johan, on évoquait les idées, je trouve que c'est un livre qui a beaucoup d'idées, et d'idées d'ailleurs très diverses. Moi, ce qui m'a séduite et happée dans cette lecture, c'est l'irruption dans certains chapitres de considérations esthétiques. Il y a notamment un chapitre qui arrive au départ sur le romantisme.
Ah oui, je trouve que c'est un chapitre absolument remarquable et qui signe en fait vraiment l'inscription de Rose Vidal dans une espèce de contre-généalogie, à savoir son sujet, croit-on au départ, c'est la douleur et l'antidouleur, et donc forcément ça en passe par, je dirais, un balayage, un panorama d'histoire littéraire sur le romantisme, et précisément elle pose la question de savoir si le romantisme est un thème, s'il faut accepter la douleur ou le dolorisme, ou si le romantisme en fait est une forme. Et je trouve que la réflexion qu'elle engage, c'est vraiment une réflexion sur la place finalement, est-ce que la littérature que nous vivons depuis bientôt deux siècles est toujours romantique, c'est-à-dire on connaît les romans romantique. Hein. C'est pas seulement l'amour toujours, mais c'est aussi un recul critique sur son écriture. Et précisément, je trouve que la manière dont elle se place dans le champ se fait toujours par rapport à cette modestie que nous évoquions tout à l'heure et par rapport, je trouve aussi, à une force de proposition critique. C'est-à-dire qu'on peut aussi lire Dramadol comme un point critique sur la littérature contemporaine et en ressortir avec un certain nombre, je dirais, d'idées neuves sur la critique. Bref, pour parler comme Sheena Patel, moi je suis fan de Dramadol.
Vous spoilez suite de ce débat déjà. Un dernier mot de conclusion.
On n'a pas parlé du titre, Dramadol, tellement c'est évident.
Mais oui,
Tramadol,
allez-y.
Voilà, Tramadol qui est cette antidouleur. Elle parle des opioïdes et de l'addiction aux opioïdes. Mais il y a aussi Drama Queen dans Dramadol. Et Drama Queen, c'est quelqu'un qui fait des histoires pour rien. Et elle raconte plein d'histoires. Elle n'est pas Drama Queen, mais elle raconte quand même beaucoup d'histoires.
Donc jetez-vous à l'eau. Chers auditeurs, ça vaut le coup de découvrir ce premier roman Dramadol de Rose Vidal qui vient de paraître dans la nouvelle collection de Gallimard Aventure.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Deuxième premier roman à notre programme des Minutes de Culture. Sheena Patel est autrice et réalisatrice, née d'un père kényan indien et d'une mère mauricienne à Londres. Je suis fan et son premier roman qui a reçu un très bel accueil en Grande-Bretagne. Le meilleur prix du premier roman en 2022. Le voici donc qui arrive traduit en français par Marie Darieusec. Alors c'est l'histoire d'une obsession amoureuse. La narratrice traque sa rivale qui expose sa vie dans les moindres détails sur Instagram. Avant d'écouter quelques phrases en lecture dans quelques instants. Virginie, est-ce que vous êtes fan, vous, de ce premier roman de Sheena Patel ?
Non, je ne suis pas fan. J'ai eu un enthousiasme initial parce que c'est une satire rusée, drôle, du narcissisme contemporain, l'addiction aux réseaux sociaux. Mais petit à petit, ça tourne en rond. C'est une satire du zapping, de la pratique du zapping. Et ça déteint sur le texte. C'est un peu comme une toupie. Voilà, ce texte tourne en rond. Et c'est un... À force de reprendre les tics de langage contemporain, ça devient un produit. D'ailleurs, c'est un produit qui se vend très bien. Je suis fan, le titre est très bon parce que ça reflète le caractère excessif de nos engouements. Il y a un bandeau rose, joli, c'est traduit par Marie Darieusec, c'est bien mis en évidence. Donc, je me suis lassée.
Johan, un premier regard.
Moi, j'ai été plutôt assez déçu au début, effectivement, par la lecture. J'étais pas très fan, sans faire de mauvais jeu de mots. Bon, déjà, moi, je suis fan, ça m'évoquait Pascal Obispo, donc je suis parti avec énormément de prévention dans ce texte. Et puis, ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait... j'étais assez lassé au début, effectivement, par toute cette mécanique de l'observation de la filature numérique. On va y revenir, j'imagine, où la narratrice observe une des maîtresses de son amant sur les réseaux sociaux, puisque c'est une Instagrammeuse type Kim Kardashian, mais plutôt version écolo. Je me suis dit, ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, plus j'ai avancé, et plus je me suis dit, il y a quand même pas mal d'ambiguïté. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Barthes qui dit, mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait j'ai perçu une espèce de conflictualité entre ces prises de position politique et la manière dont elle les vivait. Et cette ambiguïté de l'incarnation... donne pour moi en fait une certaine richesse à ce texte qui, effectivement, je suis assez d'accord, tombe parfois dans des zones de platitude à faire passer le désert de Gobi pour une oasis.
Avant de développer avec vous, on écoute un extrait lu par Anaïs Isebert.
Je traque sur Internet une femme qui couche avec le même homme que moi. Parfois, quand je me jette trop vite sur ses stories, je la bloque un moment pour qu'elle ne sache pas que je rafraîchis mécaniquement sa page 15 fois par minute, avec Netflix en arrière-plan sur mon ordinateur portable et mon estomac qui se retourne de délices quand sa photo de profil est à nouveau cerclée de rouge. Elle a des dizaines de milliers de followers, un compte vérifié. Elle est la fille de quelqu'un de célèbre en Amérique. Un flux continu de personnes blanches s'extasie en commentaires sous ses posts. Elle a des opinions sur des objets domestiques auxquels je n'ai jamais pensé de ma vie. Elle sait avec certitude quel genre de bougie en cire d'abeille il faut faire brûler. Elle jette sur sa table une nappe exquise avant le dîner. Elle sait où acheter de la poterie en édition limitée chez des potiers en vue. Elle va joyeusement dépenser $300 pour un vase où elle disposera des fleurs de fenouil vraiment, vraiment bio, signifiant par là qu'il y a bio et bio. Elle s'offre une bague à 500 dollars, alors que c'est vache maigre pour le reste du monde. Et elle l'exhibe dans un selfie.
C'est la première page du livre que l'on vient d'entendre. Virginie, comment vous pourriez décrire le style de cette autrice?
C'est très bien traduit par Marie Dariussecq. C'est le langage d'aujourd'hui, c'est bravache, c'est insolent. Il y a des répétitions volontaires, c'est-à-dire que l'héroïne cherche, traque sur Instagram une ex de l'homme avec lequel elle veut être, et elle appelle toujours cet homme comme ça, l'homme avec lequel je veux être, qui est marié, qui veut bien coucher, enfin ils ont couché ensemble mais ils ne couchent plus ensemble, et c'est un texte qui avance par fragments, mais d'une page ou deux, si bien que ça devient un peu des posts, chaque fragment devient un post Instagram. Je me suis demandé si, ce sont des exercices de style, je me suis demandé si l'homme était le même d'un bout à l'autre, ou si c'était à chaque fois un homme différent, parce que il n'existe pas vraiment cet homme, on c'est un coureur...
D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur la place de l'homme, parce que finalement, c'est le nœud de l'obsession, et pourtant, c'est ce que vous dites, il est presque fantomatique, ou en tout cas, il n'a pas d'existence réelle, je crois qu'on n'a jamais son prénom. Enfin, on ne sait pas qui c'est cet homme-là, Johan.
Non, on ne sait pas qui c'est, on voit que c'est une sorte d'artiste en vue, en tout cas, tout ça c'est de l'ordre de l'implicite, donc on le suppose, c'est à nous de le déplier. Avec laquelle elle voudrait rivaliser, on perçoit beaucoup plus de qui il s'agit, c'est une instagrammeuse, comme je le disais, type Kim Kardashian, mais bio. Et l'homme, on ne sait pas très bien parce que, en fait, le livre joue, en fait, sur un véritable schéma, une tension entre, d'une part, la célébrité et l'anonymat. Et l'anonymat, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est fan de personnes dont elle nous supprime l'identité. On ne sait pas qui est l'homme, on ne sait pas exactement le patronyme de la femme parce que se joue autour d'elle, en fait, un anonymat qu'elle veut leur renvoyer, elle. On voit que c'est une artiste en devenir, on le perçoit, une autrice. Et ce qu'elle cherche à faire dans ce récit, c'est à les mutiler. Je pense qu'elle le dit à un moment donné, observer quelqu'un comme elle le fait sur Internet, faire des captures d'écran, des stories comme elle le dit, c'est procéder finalement à une automutilation d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle perd en fait tout le crédit moral qu'elle pouvait avoir à son égard, elle fait s'effondrer son narcissisme. Et je crois que anonymiser ces personnages revient pour elle à une sorte de récit de mutilation, un récit qui est fondé finalement, et c'est ça qui le rend assez intéressant finalement, en dépit, je suis absolument d'accord, de toute cette phraséologie numérisée qui est extrêmement contemporaine et qui fait que moi vieillissant je me dis tiens ils parlent comme moi, je vais tenter de parler comme eux, donc cette espèce d'idiolecte, et puis finalement là se joue quelque chose qui est de l'ordre de la guerre. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit entre cette jeune femme, cet homme et cette espèce de triangulation qui n'a pas vraiment lieu puisqu'elle reste totalement anonyme. Et c'est ce qui rend finalement le récit assez intéressant. Et elle en parle à un moment dans le livre, mais c'est évoqué vraiment de manière très timide. Elle dit qu'effectivement, avoir une fanbase, comme elle le dit, d'ailleurs c'est excellemment bien traduit par Marie Dariussecq parce qu'on a l'impression de lire un roman français. C'est vraiment admirable comme traduction. Et elle dit, avoir une fanbase, c'est en fait abdiquer et reconnaître son impuissance politique. Et je pense que cette petite remarque sur l'impuissance politique aurait mérité, il me semble, d'être vraiment développée. Parce que, certes, c'est un premier roman, mais il y a une germination, en fait, de cette idée qui aurait pu courir dès le début. Et comme on l'a entendu dans la lecture de Linky Pitt à l'instant, on en reste quand même pour beaucoup à une sorte de description, un petit peu, de la filature numérique, du stalker, de la personne qui observe les uns les autres.
On parlait d'un livre très contemporain pour Rose Vidal. On pourrait dire aussi que c'est un livre de l'époque, celui-ci. Alors, quelles sont, en fait, pour vous, les différences, Virginie ?
Alors, très contemporain, parce qu'elle explique que cette femme qu'elle traque, elle prend en photo, les photos que cette femme prend d'elle-même, elle les agrandit, elle passe des heures à les regarder. Contemporain, elle raconte que l'homme avec lequel elle veut être va dans des vernissages branchés, elle-même va assiste à des vernissages. Elle décrit Londres, un Londres branché. Contemporain, parce qu'elle se demande s'il faudrait qu'elle ait un enfant ou pas, je crois qu'elle a 32 ans. voilà, contemporain parce qu'elle a un métier précaire, contemporain par les questions politiques. Alors ça, je trouve que c'est pas très réussi qu'elle pose.
Et qu'est-ce que ça dit de neuf sur l'époque? Est-ce que ça dit quelque chose de l'époque ou est-ce que ce sont des choses qu'on connaît déjà?
On les connaît, mais oui, on les connaît. Non, ça dit rien de neuf. Alors elle les met en forme avec un langage. Non, mais elle montre cette l'isolement que crée l'addiction aux réseaux sociaux. L'obsession, vraiment, c'est une obsédée qui en devient enragée. La jalousie aussi, elle veut être, elle a beau les descendre en flammes, elle aimerait être comme ceux qu'elle regarde, mais non.
Vous disiez enragée parce qu'il y a de la colère aussi dans ce
livre-là. Ah oui, beaucoup. Et elle dit d'ailleurs qu'elle arrive à un état de rage. Elle aimerait que l'homme avec lequel elle veut être, avec lequel elle n'est pas, meure. Elle parle assez bien de la rivalité féminine, mais là aussi, rien de nouveau, mais au moins elle en parle. C'est-à-dire le décalage entre la sororité énoncée et la haine des femmes les unes pour les autres, et le fait qu'on n'est pas féministe quand on s'accroche comme ça à un type qui a un harem. Elle parle de harem, donc ça elle le montre, mais non, on connaît déjà. Elle a une forme, c'est comme un grand sketch, enfin voilà.
Est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, Johan, est-ce que c'est un livre qui fait rire aussi? On parle d'insolence, mais est-ce qu'on...
Oui, ça fait rire, ça fait parfois rire de manière grinçante, parce que ce personnage est dans une espèce de solitude colérique, dans une douleur qu'elle n'arrive pas à résoudre et à laquelle l'écriture ne fait qu'exacerber, parce que effectivement, on a parlé de sororité à l'instant, et elle, en fait, elle est dans la rivalité, c'est-à-dire qu'elle part avec des idées féministes et elle vit dans cette espèce de douleur, de tension, de ne pas pouvoir, en fait, dans la vie, réaliser les principes auxquels elle croit. Et je pense que tout le livre se situe dans l'épuisement de cette tension, qui, à mon sens, c'est un premier roman, donc c'est vraiment, je pense, elle jette les bases de quelque chose qui n'est pas encore suffisamment exploré, mais qui, parfois, on le voit bien, elle est dans la maladresse quand elle va visiter cette maison qui est présentée sur Instagram, où elle se fait passer, elle n'a pas les moyens d'acheter ses bottes qui sont extrêmement chères, même les bottes les moins chères qui sont à 500 livres, elle n'a pas les moyens de les acheter. Et là, il y a une sorte de décalage. Et je dirais que cet humour grinçant, il arrive en fait de manière un petit peu cruelle face au désarroi d'une héroïne qui est totalement prisonnière à la fois du monde auquel elle ne peut pas accéder et de l'écriture qui, pour elle, demeure toujours un défi et un moment, je dirais, de crispation.
Juste vraiment, il nous reste quelques secondes, redire quand même que c'est un énorme succès en Grande-Bretagne.
Oui, un énorme succès. Je connais pas les ventes, je ne sais pas quel est le succès en France, mais je pense que c'est un objet, je crois qu'elle écrit vraiment, ça pulse à fond. Et c'est ça, ça avance tambour battant et ça pulse à fond, donc on est pris, c'est extrêmement rythmé.
Je suis fan de Shina Patel, apparu aux éditions Gallimard. Il est donc traduit par Marie Dariussec. Merci beaucoup à tous les deux, Johan Ferber et Virginie Bloch, l'aînée. Vous retrouverez les références de ces deux romans ainsi que le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture sur le site franceculture.fr.